De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Chaman, et c'est un morceau de d'Anne Passeo, une musicienne et jazzman et batteuse française, qui elle est en concert demain soir au Cube, ici à Évreux, dans le cadre du festival Anthropocène, organisé par le Tangram, et on est partenaire du concert, donc on aura une table de pétition. Et voilà, et on espère que vous viendrez nous voir, signer nos pétitions, vous renseigner sur Amnesty et assister bien évidemment au concert demain soir. Le concert est à 20h30 et l'ouverture des portes est à 20h pour être précise au Cube. Voilà. Donc demain soir, Anne Passeo au Cube pour un concert. Avec le Tangram.
Avec un nouveau CD.
Oui. Oui, mais c'est un morceau que je vais vous passer dans la deuxième pause musicale.
On aura en avant-première. Super.
Voilà, c'est un morceau tiré de son dernier CD. Celui-ci est un petit peu plus ancien. Voilà. Et bien, comme disait Clarlisse pendant la pause musicale,
je
ne l'avais pas entendu. Comme tu as la parole après la pause musicale, tu la gardes. Donc voilà. Je voulais vous parler, je n'avais pas tout le temps la dernière fois, mais je voulais vous parler d'un long article, alors que je vais beaucoup résumer, qui est sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. N'hésitez pas à le consulter. Et ça s'appelle La lutte contre l'antisémitisme, voir l'autre comme un être humain, non comme un ennemi héréditaire. Et c'est un entretien avec une Nona Mayer qui est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors voilà ce qu'elle dit. Qu'est-ce que l'antisémitisme ? L'antisémitisme est un phénomène complexe et multidimensionnel. Il existe à la fois des discours, des politiques publiques, des opinions et des comportements antisémites. L'antisémitisme, c'est ainsi l'hostilité envers des personnes juives, bien évidemment, perçue comme un groupe, ou l'hostilité envers toute personne qu'on pense appartenir à ce groupe. L'antisémitisme a une singularité d'abord par la longueur de son histoire. On retrace les racines de l'antisémitisme au massacre d'Alexandrie, alors c'était au 1er siècle après Jésus-Christ, massacre contre la population juive qui est considérée comme le premier pogrom donc de notre ère. L'histoire terrible de la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale, rend également ce racisme spécifique. Plus jamais ça est l'opinion unanime après 1945. Et c'est cette opinion qui a abouti à la signature de la Déclaration universelle des droits humains, qui nous est si chère. L'antisémitisme comporte plusieurs strates de préjugés accumulés au cours de son histoire. Aucune strate ne disparaît jamais totalement. Elles peuvent ressurgir à la faveur du contexte. La première strate, c'est l'anti-judaïsme chrétien qui désigne les personnes juives comme le peuple déicide, ceux qui ont tué Jésus. Petite parenthèse personnelle, on sait tout à fait maintenant que historiquement c'est complètement faux. Cet antisémitisme a perduré à travers l'Europe chrétienne jusqu'au Concile de Vatican dans les années 60. Et oui, l'antisémitisme chrétien jusque dans les années 60 n'avait pas été supprimé officiellement. Ensuite, on a l'antisémitisme à base économique qui va prendre son ampleur au 19e siècle avec le symbole du juif banquier qui détient l'argent. Ce préjugé s'est construit sur l'assimilation de personnes juives au prêt à intérêt et à l'usure au Moyen-Âge. Alors je fais aussi une petite parenthèse personnelle, parce que moi j'ai lu aussi dans des trucs d'histoire que cette histoire de juifs, entre guillemets, banquiers et prêteurs d'argent et usuriers, c'était en fait parce qu'au Moyen-Âge, les métiers d'argent étaient considérés par les églises catholiques et chrétiennes comme dégradants, donc ils l'avaient laissé aux juifs. Et après on a dit que les juifs étaient effectivement des gens qui étaient près des richesses matérielles. Alors qu'en fait, c'est tout à fait historiquement tout à fait différent. Troisième strate, on retrouve les théories de la race où les juifs vont être théorisés comme des races génétiquement inférieures. Cela va culminer avec le nazisme, effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, le texte du protocole des sages de Sion est une illustration aussi de l'antisémitisme. Il s'agit d'un faux forgé par la police du tsar en Russie qui accusait les juifs et les francs-maçons de comploter pour diriger le monde. Alors avec la création de l'État d'Israël et tout ce qui se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on voit l'émergence d'un nouveau préjugé antisémite. L'amalgame entre les personnes juives et l'État d'Israël. Voilà. Ça, c'est important, effectivement. Et encore une fois, on ne le répétera jamais assez, On a le droit de critiquer l'État d'Israël par rapport aux crimes que l'on commet. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Ce ne sont pas les Juifs qui sont concernés, c'est le gouvernement de l'État d'Israël. Donc ce nouvel antisémitisme, associé à la critique de la politique expansionniste d'Israël, prend son essor dès la guerre des Six Jours à la fin des années 60, et de l'occupation des territoires par l'État d'Israël. Depuis, ça ne s'est pas arrêté, donc je vous saute le paragraphe qui suit, qui en fait détaille, c'est là aussi, reportez-vous à l'article complet pour en prendre connaissance plus amplement. Mais il est faux de dire que ce nouvel antisémitisme viendrait chasser l'ancien. C'est que les deux antisémitismes coexistent. Et quand on observe plus finement, dans le détail, on voit que ce nouvel antisémitisme, donc, est contre le fait que l'État juif se livre à des crimes, donc on est contre les juifs, n'est pas l'élément structurant de l'antisémitisme contemporain. On observe au contraire, au niveau des opinions, une grande lassitude à l'égard du conflit israélo-palestinien, avec un taux massif de sans aucune réponse, aux questions qui concernent Israël, la Palestine et la responsabilité du conflit. L'antisémitisme contemporain est toujours majoritairement façonné par des préjugés liés au complot, au pouvoir, à l'argent, qu'on retrouve plutôt à l'extrême droite du champ politique. Où il est dit effectivement dans cet article que les préjugés antisémites, on les retrouve sur l'échelon politique principalement et de très loin à l'extrême droite. Alors malgré ces différentes strates de l'antisémitisme et les crimes commis par l'État d'Israël provoquent effectivement par voie de conséquence une augmentation des actes antisémites. Chose qui est tout à fait anormale et qu'on peut regretter, mais c'est la réalité. Cela peut notamment s'expliquer par des effets d'intimidation ou d'entraînement. C'est à un point tel que lorsqu'il y a profanation d'un cimetière juif, les responsables religieux essaient au maximum d'étouffer l'affaire pour empêcher que cela donne des idées aux autres. Alors, malgré la multiplication des actes antisémites, on observe au niveau des opinions dans les années 90 un recul graduel des préjugés antisémites dans la société française, contrairement à l'impression qu'on peut avoir. Cela est dû au renouvellement générationnel, à la hausse globale du niveau d'études et au fait qu'on vit dans une société de plus en plus diversifiée. Alors, on a en France pas mal d'atouts réglementaires et législatifs, différents outils pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a la loi Pleven, la loi Gassot, la création de la DILCRA, que je connaissais pas, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, qui date de 1972. Il y a le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination. Il y a eu les assises de l'antisémitisme. Et ce que dit effectivement la personne qui parle dans cet article, malgré tous ces conflits, ces outils, personne ne sait plus vraiment ce qu'il faut penser. Alors ce qu'elle dit effectivement plus loin, et ça c'est tout à fait intéressant, il ne suffit pas de changer la définition de l'antisémitisme et de dire que les actes antisémites et les actes antisionistes, c'est la même chose, ou de toute critique d'Israël, ou que toute critique d'Israël est un acte antisémite. Critiquer Israël, la politique de Benjamin Netanyahou, les crimes contre l'humanité commis à Gaza, c'est fondamental et c'est vital dans une démocratie. Cela relève de la liberté d'expression. Cela devient de l'antisémitisme à partir du moment où l'on fait un amalgame, où on dit que toute personne juive égale sioniste, égale pro-israélienne, égale génocidaire. Lorsqu'on fait cet amalgame, on ne voit pas quelqu'un en face de nous. On voit un groupe essentialisé, et c'est ça le racisme. C'est pareil lorsqu'on dit que tous les musulmans sont des fanatiques djihadistes en puissance, ou que tout étranger est un agresseur sexuel en puissance. Ce sont ces amalgames qui sont le propre des racismes. Alors, ce qui est dit aussi plus loin, et puis ça sera la conclusion, l'État peut venir soutenir, sensibiliser, promulguer des lois, mais la répression, cela ne suffit pas. Ce sont ici surtout des associations qui ont un rôle à jouer pour sensibiliser et créer ces projets communs entre divers groupes. Orthodoxe. En Israël, vous avez des associations qui, même après le 7 octobre, réussissent à faire dialoguer ensemble Israéliens et Palestiniens, comme le Forum israélo-palestinien des familles endeuillées, unissant des parents dont les enfants ont été tués par l'autre camp. Si eux arrivent à le faire, nous pouvons arriver à le faire en France. Cela passe par des pratiques culturelles, c'est apprendre ensemble l'arabe et l'hébreu, c'est développer des projets de musique, de danse, de cuisine mixte. C'est tout ce qui permet, au fond, de voir l'autre comme un être humain et non pas comme un ennemi héréditaire. La formation aussi est indispensable pour sensibiliser dans les commissariats et les gendarmeries à la prise en charge des actes antisémites, former à l'accueil des victimes, former les agents à prendre leurs plaintes au lieu de les pousser à faire une simple main courante. Au niveau de la justice, c'est la même chose. Très souvent, on ne retient pas la qualification antisémite ou raciste pour une agression, car c'est plus difficile à prouver. Alors, l'auteur de ce texte rappelle qu'elle fait des formations auprès de magistrats pour faire comprendre la nature de l'antisémitisme et du racisme et sensibiliser à la nécessité de prendre en compte les qualifications d'actes racistes ou antisémites. Plus ces actes seront mis en évidence et traités en tant que tels par les forces de l'ordre et la justice, mieux on sera alors armé pour lutter contre l'antisémitisme et au-delà, contre les formes de racisme. Voilà, ça me paraissait intéressant de faire ce petit résumé de cet article, qu'encore une fois je vous engage à lire dans toute sa longueur et tous ses détails sur le site d'Amnesty. Voilà, et parce que à force de parler effectivement d'antisémitisme, par exemple d'assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme, comme il est dit dans cet article, c'est complètement, non seulement contre-productif, mais c'est en fait encouragé indirectement l'antisémitisme.
Un racisme, de toute manière.
Voilà. Donc, voilà. Et comme on parle de racisme et d'antisémitisme, il y a Carlis qui voulait vous parler d'un sujet qui n'est pas sans rapport.
Pas tout à fait la même chose, mais enfin, il y a un rapport, mais ce n'est pas tout à fait la même chose.
Pardon, tout à fait. Mais c'est sur l'esclavage, je crois, c'est ça.
Alors, c'est l'esclavage et le colonialisme, voilà. Qui ne sont pas seulement des crimes appartenant au passé. L'esclavage moderne existe encore dans certaines parties du monde. Donc, les conséquences de l'empire colonial européen persiste dans notre société actuelle. Les richesses amassées par les États anciennement colonisateurs, par le biais de l'esclavage et du colonialisme, ont donné lieu à des profondes inégalités qui continuent à peser sur l'ordre mondial. Le racisme, présent dans nos sociétés actuelles, trouve également ses origines dans l'esclavage et la colonisation. La déshumanisation des personnes et la hiérarchisation en fonction de supposées races, était en effet au cœur du projet colonial européen. Au cours des 4 siècles de la domination coloniale européenne, l'identité raciale supposée est devenue le critère de répartition du pouvoir entre les populations. Les populations sont catégorisées et hiérarchisées en fonction de leur couleur de peau. Donc ce système racial de séparation du pouvoir perdure encore dans la société d'aujourd'hui. Les personnes racisées et les populations autochtones sont confrontées à l'héritage persistant de ces pratiques discriminantes. Accès inégal à la santé, inégalité économique, contrôle aux faciès, incarcération excessive, etc., etc. Donc les conséquences aussi, c'est de la dette, par exemple, la dette d'indépendance d'Haïti. Il y a 200 ans, en 1825, la France imposait à Haïti une dette d'indépendance, une indemnisation imposée par la violence en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. L'essentiel de l'activité économique haïtienne a été assujetti au remboursement de la dette d'indépendance, jusqu'à son remboursement total au bout de 122 ans. Aujourd'hui encore, le poids de la dette continue à paralyser le pays. Les inégalités structurelles et les crises des droits humains qui frappent le pays sont en partie le résultat des injustices raciales historiques que représentent l'esclavage et le colonialisme imposés par la France. C'est pourquoi nous soutenons les demandes de réparation de la société civile haïtienne auprès de l'État français. La France doit fournir les réparations pour remédier à son passé colonial. Au lendemain de l'abolition de l'esclavage en 1848, la France a versé des réparations. Mais celles-ci n'étaient pas destinées aux victimes de l'esclavage. Elles ont au contraire été versées, sous forme de compensation économique, aux anciens propriétaires d'esclaves avec la loi d'indemnisation de 1849. En 2001, la loi Taubira reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. La priorité est donnée au devoir mémoriel, pas à la question des réparations financières laissées de côté. La récente abstention de la France au vote de la résolution de l'ONU qui reconnaît la traite et l'esclavage comme le pire crime contre l'humanité et qui exige des réparations montre à nouveau le manque d'engagement de la France sur la question des réparations alors même qu'elle a une responsabilité historique. Bon nombre d'États qui ont bénéficié et qui tirent encore profit de l'héritage de l'esclavage et du colonialisme, continuent de nier l'existence d'un devoir de réparation en vertu du droit international pour ces torts historiques. Donc ces États, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou la France, utilisent souvent l'argument que l'esclavage et le colonialisme n'étaient pas interdits par le droit international à l'époque où ces pratiques avaient cours, et qu'il n'y a donc pas eu de violation du droit international qui puisse entraîner une obligation juridique d'accorder des réparations. C'est le principe de l'intertemporalité. Le plus grand obstacle aux réparations pour le colonialisme et l'esclavage tient à ce que les principaux bénéficiaires de ces deux phénomènes n'ont ni la volonté politique, ni le courage moral d'offrir ces réparations. Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance des Nations Unies en 2019. Donc des groupes s'organisent à travers le monde pour obtenir des réparations au titre de l'esclavage et du colonialisme. Si de nombreux États continuent à s'opposer aux demandes de réparation, des avancées ont toutefois été obtenues grâce aux luttes de longue haleine menées par les descendants des victimes. En Belgique, le pays a été reconnu responsable de crimes contre l'humanité par la Cour d'appel de Bruxelles en 2024 et a été condamné à verser des réparations pour l'enlèvement et la ségrégation raciale systématique d'enfants métis au Congo, colonisés par la Belgique. Au Canada, on en parlait tout à l'heure, le gouvernement canadien a accepté de verser plus de 2 millions de dollars en janvier 2023 pour réparer les dommages causés aux victimes de retraits forcés d'enfants autochtones et leur placement dans des pensionnats. Environ 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leur famille, de leur identité et de leur culture. En Nouvelle-Zélande, le Congrès a adopté en 2022 une proposition de loi en faveur d'une indemnisation à hauteur de 177 millions de dollars néo-zélandais pour une tribu maori et de la restitution de 36 sites ayant une signification culturelle. Alors que fait Amnesty International pour obtenir des avancées sur le terrain des réparations ? Les réparations ne se limitent pas au rétablissement de la justice pour les torts historiques causés par l'esclavage, la traite des esclaves et le colonialisme. Elles impliquent également le démantèlement ou la transformation des structures et systèmes contemporains de discrimination, de soumission et d'inégalité raciale mises en place à l'époque de l'esclavage et du colonialisme. Les réparations concernent donc notre avenir et notre présent, tout autant que notre passé. Au cours de l'année écoulée, l'équipe justice raciale d'Amnesty International a développé des arguments juridiques s'appuyant sur le droit international en faveur des réparations. Mener un travail de plaidoyer aux côtés des Nations Unies, produisant une déclaration orale, des analyses et des contributions dans le cadre de résolutions de l'ONU, des réunions de plaidoyer et co-organisant des événements en marge avec des partenaires. Amnesty a également travaillé avec des partenaires pour donner de l'écho aux demandes en faveur de réparation par le biais de la Décolonial Berlin Conference, ainsi que dans les cas de la Namibie et de Haïti. Et Amnesty a continué à recueillir des informations sur les effets du colonialisme et de l'esclavage sur les droits humains aujourd'hui. Donc, soutenez notre travail d'enquête et d'interpellation. Voilà, suivez ce qui se passe sur le site d'Amnesty. Faites des dons pour que les chercheurs puissent continuer à mener leur travail d'enquête. Et voilà.
Et venez signer nos pétitions sur le stand de demain et samedi soir, ce qu'on va tenir avec le Tangram. Voilà, c'est aussi une façon d'agir avec nous. On passe tout de suite la deuxième pause musicale, on se retrouve juste après. Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc je vais tout vous dévoiler. Il y a Edith qui, comme je disais, qui restait plus que 18 secondes de musique à l'instant. Il me dit, mais là, elle chante pas, mais elle chante, chante qui? C'est Anne Passeo. On vous rappelle qu'elle
quand
sera
même
demain soir en concert au Cube, dans le cadre du festival Anthropocène du Tangram, et qu'on est partenaire et qu'on aura donc un stand de signature et d'information sur Amnesty dans l'entrée du Cube demain soir. Voilà.
Eh ben moi, je vais donner des bonnes nouvelles.
Voilà, parce qu'une émission sur Amnesty et les droits humains, sans bonnes nouvelles, c'est toujours un peu triste, et c'est Edith qui en a ce soir.
Voilà, donc, au mois de février, Didier me l'a rappelé, nous vous avions présenté le cas de cette rapporteuse pour les territoires occupés,
oui.
Francesca. Alors, il me manque son nom de famille. Attendez, je suis tout à fait.
Je l'avais noté, moi.
C'est Francesca Albanese, c'est voilà, ça. C'est ça.
C'est une dame d'origine italienne.
Voilà, tout à fait. Et qui avait dénoncé Le génocide commis par Israël à Gaza. Bon, c'était à peu près au moment où aussi Amnesty parlait de génocide et où il y a eu, on va dire, beaucoup de levée de paroles, à minimum. Hein, on ne va pas dire de bouclier, mais de levée des paroles. Et alors, elle a été, au niveau des États-Unis, ce qu'elle disait ne plaisait pas au gouvernement états-unien. Donc, elle a eu plein de sanctions imposées par les États-Unis sur cette rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens. On en avait parlé. Comment dire, la France n'était pas forcément pour la défendre, l'Europe non plus, ça a mis un certain temps.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, je fais soft.
Oui,
hein.
Oui, j'ai bien compris.
Je fais soft, mais c'était presque haro sur la personne, mais que dit-elle, elle est lamentable, il faut qu'elle démissionne. Ça s'est calmé depuis. Et alors là, ce que j'ai vu, moi, c'est une bonne nouvelle qui se passe aux États-Unis. Il y a un juge qui a estimé que les sanctions imposées par l'administration Trump en 2025 visant directement ses prises, donc les prises de position de Francesca Albanese, ses prises de position publiques, notamment ses critiques de la guerre menée par Israël à Gaza et de la politique américaine dans la région, ben, ces prises, c'est de la liberté d'opinion. Et donc, ça ne méritait pas d'avoir ces sanctions. Le tribunal a donc affirmé que la censure ou la punition d'un discours critique, surtout lorsqu'il émane d'une experte mandatée par l'ONU, porte atteinte à l'intérêt général, qui est de préserver un débat ouvert et libre. En bloquant les sanctions, le juge a indirectement validé l'importance du rôle de Francesca Albanese. Les droits humains ne peuvent être défendus si ceux qui les protègent sont muselés. Ben, ça fait plaisir de lire ça.
Oui, tout à fait. Surtout en ce moment où on entend très très souvent des discours qui sont à l'extrême opposé.
Donc voilà, on espère que ça va vraiment. Déjà, elle est restée dans son poste et ça c'est pas.
Oui.
Et elle continue ses enquêtes. Hein, moi, j'ai vu d'autres enquêtes, mais ce juge états-unien, voilà, il a décidé de revenir sur les sanctions du gouvernement Trump. Et ça fait aussi plaisir. Une autre bonne nouvelle.
Une autre bonne nouvelle, tout à fait.
Alors Chine, pareil, bonne nouvelle chinoise. Il y en a quand même pas beaucoup. Eh bien, le 13 avril dernier, l'avocat Yu Wenchen a été libéré après avoir purgé une peine de 3 ans de prison pour incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Je ne sais pas trop comment on peut inciter à la subversion du pouvoir de l'État.
Ça,
il faudrait un mode d'emploi.
Ça, c'est dans tous les pays autoritaires, c'est une forme d'accusation qui est extrêmement répandue, ce genre
tout
de
choses. Tout à fait, mais difficile à démontrer, je pense. Donc, arrêté en 2023 avec son épouse Xu Yan, alors qu'il se rendait à une rencontre avec des représentants de l'Union européenne. Je me rappelle, on en avait parlé à la radio aussi. Donc, 2023, ça fait déjà plus longtemps.
Oui.
Donc, il a fait partie des figures les plus connues de la défense des droits humains en Chine. Sa libération représente un soulagement important pour ses proches après des années de détention et de pression. Alors, il était poursuivi pour son engagement en faveur de la justice et de l'état de droit. Yu Wenchen n'aurait jamais dû être emprisonné. Son cas s'inscrit dans un contexte plus large de répression des défenseurs et défenseuses des droits humains en Chine, où les autorités utilisent régulièrement des accusations liées à la sécurité nationale pour réduire au silence les voix critiques. Attention, cette libération ne constitue pas en soi une réparation, dit Amnesty. En effet, de nombreuses personnes libérées restent soumises à des restrictions, comme la privation des droits politiques, souvent utilisée pour prolonger la surveillance et le harcèlement. Alors, Yu Wenchen doit pouvoir retrouver sa famille et reprendre sa vie, librement, sans intimidation. C'est une étape importante qu'il faut saluer, mais elle rappelle aussi l'urgence de mettre fin aux poursuites arbitraires et de garantir le respect des droits humains en Chine. Et là, c'est encore un gros combat.
Oui, faire respecter les droits humains en Chine, il y a effectivement encore beaucoup de boulot avant qu'on y arrive. Mais bon, voilà,